Yankee low. Hey. Double yo. Yeah. You tell him me ten no amba. Hey. Me ten no amba low. You tell him me ten no amba. Yeah. Me ten no amba low.
There it goes. The passage of time.
Jeudi à 13h30 TU sur RFI et en podcast sur RFI.fr.
Il est midi en temps universel. Merci d'écouter RFI. C'est l'heure du Grand Journal International. Bonjour Simon Bourtembourg.
Bonjour Clotilde, bonjour à toutes et à tous.
À la une, les frappes les plus intenses depuis le début de la guerre.
À Téhéran et sa banlieue cible pour le cinquième jour consécutif d'attaques israéliennes et américaines. Nous appellerons dès le début de ce journal notre correspondant sur place alors que l'Iran poursuit sa riposte. Le Qatar et les Émirats assurent avoir été visés ce matin encore. On fera le point sur les infrastructures américaines touchées dans le Golfe. Dans ce contexte de guerre, nous serons aussi à Madrid où le Premier ministre espagnol répond aux menaces de Donald Trump. Nous ne serons pas complices par peur de représailles, assure ce matin le Premier ministre espagnol qui avait interdit à l'armée américaine d'utiliser des bases espagnoles pour frapper l'Iran. Avant Afrique Midi, dans 30 minutes, on parlera dans ce journal du Bénin. Le Bénin, où l'ancien chef d'État et opposant Thomas Boniaï se retire de ses fonctions à la tête du parti Les Démocrates. Et puis, à Strasbourg, en France, une pièce de théâtre qui ne plaît pas du tout aux autorités chinoises. C'est l'histoire de trois Taïwanais réunis pour imaginer ce que serait l'ambassade de leur pays.
L'hommage national à l'ayatollah Khamenei est reporté.
Oui, l'événement avait été annoncé ce matin pour le soir même après la mort du guide suprême iranien dans une frappe, c'était samedi dernier. La cérémonie a donc finalement été reportée en anticipation d'une affluence sans précédent selon la télévision d'État iranienne. L'Iran qui fait de son mieux pour désigner rapidement un nouveau guide suprême. Nous sommes proches d'une décision mais la situation est celle d'une guerre, a déclaré l'un des membres de l'institution responsable du choix d'un nouveau guide. Dans ce contexte, Israël et les États-Unis poursuivent leur cinquième jour de bombardement incessant sur l'Iran. Siavosh Ghazi, vous êtes le correspondant de RFI à Téhéran. La capitale iranienne et sa banlieue est la cible de frappes les plus intenses depuis le début de la guerre.
Absolument, ce sont les frappes les plus intenses jamais connues depuis cinq jours tout autour de la capitale iranienne. Le quartier de Lavizan à l'est, le quartier de Garme d'arrêt donc à l'ouest et Shahrerei dans le sud de Téhéran, mais aussi la région de Pardis et Parchin à 40 kilomètres à l'est de la capitale, qui ont été très lourdement frappés. En cinq minutes, j'ai entendu plus de 40 détonations sur le quartier de Lavizan. Dans ce quartier vit un ami que j'ai appelé immédiatement ce matin. Il m'a dit qu'en fait, il était parti donc hier soir à 23h, alors qu'il y avait déjà des bombardements très lourds dans cette zone où il y a de nombreuses bases militaires. Et il vit, il était donc il a décidé de partir à 23h du soir en plein bombardement avec sa femme, ses deux filles, ses parents et sa sœur qui vivent dans un même immeuble. Et donc, malgré les risques, il a pris sa voiture et a quitté Téhéran, comme de nombreux Iraniens donc qui ont déjà quitté la capitale iranienne à cause des bombardements et qui s'intensifient de jour en jour avec de plus en plus de morts parmi les civils, notamment dans les frappes d'hier autour de l'aéroport de Téhéran-Mehrabad.
Siavosh, il y a donc ces frappes sur Téhéran et de son côté, l'Iran continue de répliquer sur différentes cibles.
Absolument. Donc les gardiens de la révolution viennent d'annoncer une nouvelle vague d'attaques contre Israël et les bases américaines dans la région. Ce matin déjà, 40 missiles ont été tirés contre Israël et donc des installations militaires américaines au Koweït, à Bahreïn, aux Émirats Arabes Unis et dans d'autres régions. Il y a aussi des attaques de drones contre le consulat américain aux Émirats Arabes Unis, mais aussi des bases, des groupes d'opposition kurde, donc au Kurdistan irakien. L'Iran répond avec toutes ses forces et riposte aux attaques sur tous les fronts pour les autorités iraniennes. En fait, c'est une guerre de survie. Une décision a été prise de fermer totalement le détroit d'Hormuz, malgré les déclarations du président Trump. Téhéran affirme que seuls les ordres des gardiens de la révolution doivent être écoutés pour les navires commerciaux et pétroliers et que désormais aucun navire n'a le droit de traverser ce détroit, une manière de faire pression sur les économies des pays occidentaux, en particulier sur le prix du pétrole et de l'essence.
Siavosh Ghazi en direct pour RFI de Téhéran, alors qu'un média d'État iranien affirme à l'instant que plus d'un millier de personnes ont été tuées dans cette guerre. Siavosh, vous l'évoquiez, Téhéran poursuit donc sa riposte sur des cibles américaines dans le Golfe. Le Bahreïn ouvre d'ailleurs un registre d'inscription pour se porter volontaire à l'effort de guerre. Ce mercredi, les Émirats Arabes Unis et le Qatar affirment avoir intercepté des missiles balistiques et des drones iraniens. Marine de la Moissonnière, bonjour.
Bonjour.
À Washington, des médias ont publié aujourd'hui des photos des premières victimes américaines de cette guerre.
Oui, 4 des 6 morts que l'on compte côté américain, des réservistes déployés au Koweït qui ont été tués dimanche lors d'une attaque de drones contre une base américaine. D'autres infrastructures états-uniennes ont été touchées dans ce pays, mais également au Qatar, en Irak, à Bahreïn et aux Émirats Arabes Unis. Lundi, une base de la CIA en Arabie Saoudite a été frappée. Hier, ce sont l'ambassade américaine à Riyad et le consulat américain à Dubaï qui ont été touchés. Conséquence, les États-Unis ont rappelé une partie de leur personnel diplomatique dans 6 pays de la région, ont fermé plusieurs ambassades et ont demandé à leurs ressortissants de partir. 9000 personnes l'ont fait depuis samedi, a indiqué hier soir le département d'État. Washington prend des mesures historiques pour aider ceux qui veulent rentrer aux États-Unis, assurent les autorités. Des vols charters ont été affrétés depuis les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Mais dans les médias américains, plusieurs personnes bloquées au Moyen-Orient se plaignent d'être abandonnées et se demandent pourquoi leur pays a lancé la guerre sans avoir prévu de plan d'évacuation.
Marine de la Moissonnière, alors que le premier vol organisé pour rapatrier des Français du Moyen-Orient est lui arrivé dans la nuit à Paris, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a confirmé ce matin qu'il y aura plusieurs vols aujourd'hui, notamment depuis Abu Dhabi et l'Égypte. Au total, près de 400 000 Français se trouvent dans la région. La France, qui annonce par ailleurs prévoir une réunion du G7 Finance, alors que les bourses européennes temporisent après 2 séances de chute. Une réunion sans doute en début de semaine prochaine qui réunira donc les ministres des Finances du G7 et également les banquiers centraux. Le président français Emmanuel Macron appelle, lui, à la convocation ce soir d'un nouveau Conseil de défense et de sécurité.
Quant au Premier ministre espagnol, il répond aux menaces de Donald Trump.
Oui, dans le monde occidental, Pedro Sanchez continue d'adopter un profil singulier en s'opposant pleinement à l'offensive américano-israélienne contre l'Iran. Au début de la guerre, le gouvernement espagnol avait refusé aux forces américaines l'usage de bases états-uniennes dans le sud du pays. Eh bien, ce matin, le chef de l'exécutif socialiste a réitéré son opposition. François Musso.
Pedro Sanchez a réitéré qu'il ne changerait pas de position alors que d'autres partenaires européens suivent et appuient l'offensive américaine. Le leader socialiste s'oppose catégoriquement à appuyer ce qu'il appelle une initiative qui va contre l'ordre international et qui n'a même pas reçu l'aval du Congrès américain.
La position du gouvernement espagnol est claire et consistante. En premier lieu, non à la rupture d'un droit international qui nous protège tous. En deuxième lieu, non au fait d'assumer l'idée que le monde ne peut résoudre ses conflits que via des conflits, des bombes. En troisième lieu, non au fait de répéter les erreurs du passé. La position du gouvernement espagnol se résume en 4 mots. Non à la guerre.
Non à la guerre.
Pour lui, il y a un précédent à ce qu'il appelle cette folie guerrière qui ne peut avoir que des conséquences désastreuses pour les gens, les populations civiles, à savoir l'invasion de l'Irak en 2003 qui, de son point de vue, n'a eu que des effets contraires à ce qu'elle prétendait. Inflation du prix de l'énergie, renforcement du djihadisme, pauvreté. La droite en Espagne est vent debout contre Sanchez, mais celui-ci, pour l'instant, maintient sa ligne. François Musso, Madrid RFI.
Et dans le contexte de cette guerre au Moyen-Orient, la Chine fait de son côté le choix de la prudence. Pékin reste en retrait, même si après les premières frappes américaines et israéliennes sur Téhéran, la diplomatie chinoise avait dénoncé une atteinte à la souveraineté de l'Iran. Depuis, plus rien. Pourtant, la Chine est l'un des soutiens du régime iranien et principal acheteur de son pétrole. Cette prudence chinoise, elle révèle les limites du partenariat et surtout l'importance que la Chine accorde à sa relation avec Washington. Et ce, alors que Donald Trump est attendu en Chine dans quelques semaines. Cléa Broders, vous êtes notre correspondante à Pékin. Cléa, on en reste donc pour l'instant au stade des condamnations verbales.
C'est ça, la Chine condamne mais n'agit pas. Depuis les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, Pékin multiplie les critiques contre ce qu'elle décrit comme une violation du droit international. Pourtant, derrière ces déclarations, l'aide concrète à Téhéran reste quasi inexistante. Et cette retenue reflète d'abord un calcul stratégique. Malgré leur partenariat, l'Iran reste bien moins crucial pour Pékin que sa relation avec Washington. Les États-Unis demeurent incontournables sur le commerce, la technologie ou encore la question sur Taïwan. Et surtout, la crise intervient à un moment diplomatique sensible. Des négociations commerciales entre responsables chinois et américains doivent se tenir mi-mars à Paris, prélude à une visite, vous le disiez, de Donald Trump à Pékin début avril. Et dans ce contexte, ouvrir un nouveau front politique avec Washington autour de l'Iran n'aurait guère d'intérêt pour Pékin. La Chine doit aussi ménager ses relations avec les monarchies du Golfe, partenaires énergétiques et économiques majeurs. Et fidèle à sa doctrine, elle évite de s'impliquer militairement dans des conflits loin de son voisinage stratégique. Résultat, Pékin s'en tient à une position classique, dénoncer l'usage de la force, appeler au dialogue et se poser en défenseur de la stabilité internationale.
Cléa Broders en direct de Pékin pour RFI. Vous nous parliez du partenariat énergétique entre la Chine et l'Iran. Le détroit d'Ormuz par lequel 20% de la production mondiale de pétrole transite est bloqué par Téhéran. Cette guerre, elle fait donc craindre une flambée des prix de l'essence, notamment en France, où le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, et la chef de file des députés RN Marine Le Pen réclame une baisse de la TVA sur les carburants de 20% actuellement à 5,5%. Ce matin, en compte rendu du Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon leur a répondu.
Nous serons extrêmement attentifs à l'évolution des prix parce que nous savons et je sais pertinemment à quel point c'est une inquiétude centrale pour beaucoup de Français et donc c'est évidemment une priorité absolue pour le gouvernement. Pour autant, les demandes formulées par Madame Le Pen et Monsieur Bardella, je pense notamment à un passage de la TVA à 5% pour l'ensemble des produits énergétiques, est complètement disproportionné au regard de la situation telle que c'est aujourd'hui. Demander d'ores et déjà une mesure qui coûte 17 milliards d'euros quand on connaît et ils connaissent l'état des finances publiques et la nécessité de redresser les finances publiques du pays, alors même que cette guerre ne démarre que depuis quelques jours, c'est, me semble-t-il, un peu politicien.
La porte-parole du gouvernement français, Maud Bréjon.
13h12 à Paris et à Cotonou, au Bénin. Il renonce à ses fonctions à la tête du parti Les Démocrates.
L'ancien chef de l'État et opposant Thomas Boni Yayi cesse donc ses activités politiques au sein du parti. Il l'a annoncé aujourd'hui dans un courrier adressé au parti. Thomas Boni Yayi explique sa décision par des raisons de santé. Il indique qu'il veut pouvoir pleinement se consacrer à cette nouvelle étape de sa vie, au repos donc. La direction de son parti, qui est le principal parti d'opposition au Bénin, est confiée aux vice-présidents et aux instances dirigeantes jusqu'au prochain congrès. On revient évidemment sur cette actualité au Bénin dans Afrique Midi dans un peu moins de 20 minutes.
C'est une pièce de théâtre, Simon, qui ne plaît pas du tout aux autorités chinoises.
Ceci n'est pas une ambassade, Made in Taiwan. Le seul titre de l'œuvre a dû dresser les poils des autorités chinoises. Dans la pièce, jouée à Strasbourg en France, trois Taïwanais se réunissent pour imaginer ce qui serait l'ambassade de ce pays. Pas du tout du goût du consulat de Chine. Chine dans la capitale alsacienne qui a donc demandé la déprogrammation de cette pièce de théâtre. Pékin considère Taïwan comme une de ses provinces. Alors l'ingérence chinoise, elle a été dénoncée par la mairie de la ville. Muriel Mahalouf, la pièce reste cependant programmée au théâtre du Maillon.
Oui, effectivement, la pièce « Si n'est pas une ambassade » est de Stéphane Kaïgi, le metteur en scène suisse connu pour ses créations politiques où il mêle réalité et fiction. Sur scène, cette fois, trois Taïwanais, une activiste, un ancien diplomate et une musicienne imaginent une ambassade éphémère. Ce spectacle coproduit par le Théâtre national de Taipei est basé en partie sur leur propre biographie et pointe une réalité géopolitique ubuesque. Taipei n'est plus reconnue aujourd'hui que par une poignée d'États, dont le Vatican. La maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barseguian, après avoir reçu une lettre du consulat de Chine demandant la déprogrammation de la pièce de Stéphane Kaïgi, a répondu en rappelant la loi française sur la liberté d'expression artistique. Elle a ensuite exprimé son soutien au Théâtre du Maillon qui programme la pièce et s'est rapprochée chez des services culturels de l'État, s'inquiétant d'un contexte où la liberté de création est soumise à des attaques répétées.
Muriel Mahalouf du service culture de RFI. Et puis, pour refermer ce journal, cette dissolution au Japon qui fait grand bruit, celle d'une secte. La haute cour de Tokyo a ordonné la dissolution immédiate de l'aile nippone de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, la secte Moon. Cette secte, elle avait été reconnue coupable d'avoir ruiné d'innombrables Japonais en les contraignant à faire des dons exorbitants. Vous retrouvez à ce sujet un article de notre correspondant à Tokyo sur notre site internet.
C'était le journal de Simon Bourtembourg. Les sports, bonjour Cédric d'Oliveira.
Bonjour Clotilde.
Avec d'abord du football et les quarts de finale de la Coupe de France et un premier club qualifié.
Il s'agit de Strasbourg qui a dominé Reims 2-1 grâce à deux pénaltys marqués dans les derniers instants de la rencontre, match qui avait lieu hier. Donc les Alsaciens se sont accrochés et pour sa première titularisation, le jeune espoir marocain Guessim Yassine a été convaincant.
Le mix de toutes les cultures, c'est sur le 99.1.
Bye.
RTL.
C'est sur le 99.1.
Le mix.
Amateurs de musiques électroniques, cette information est faite pour toi. Des nouveautés, du mix, mais surtout des interviews d'artistes. DJ Academy, c'est votre magazine hebdomadaire Nouvelles Tendances Électroniques. DJ Academy, présenté par Stéphane Chambord, à retrouver sur l'antenne de Radio HDR 99.1 FM, tous les mercredis à partir de 23h.
Retrouvons-nous pour l'Entre-Femmes tous les premiers mercredis du mois de 12h à 13h ou le samedi suivant de 14h à 15h sur Radio HDR 99.1 FM. C'est l'émission Sorore de femmes courageuses qui nous livrent au travers de leurs témoignages leur combat de vie. Parce qu'être une femme, c'est souvent la promesse d'un destin semé d'embûches. Partageons nos expériences afin de se reconnaître, se soutenir, se comprendre lors de notre entretien mensuel de l'Entre-Femmes sur Radio HDR 99.1 FM.
You're listening HDR.
Le mix des plus durs.
C'est toujours Alexandre qui voulez-vous que ce soit
HDR.
HDR The Mix 99.1.
Si, 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 c'est Crump, c'est qu'elle, le Queen's Pre-Easy, je vérifie les petites billes de Hustler qui imitent ma technique dealer.
HDR 99.1.
Bitch,
you better get on, bitch. I see you tryna come, tryna get on, bitch. You go on trip, slip, fall in, and lick on dick. And be the same nigga about to come and lick on this. All up.
Come on now, shit.
HDR le mix.
Sometimes it be a stunt here. Say certain girl are real animal here. But you better steer and share your comments with yourself.
99.1.
HDR 24h/24, le mix tout qu'il tire.
Radio HDR point fr.
Echo Out Session sur Radio HDR le vendredi à 23h, en rediff le lundi à 2h.
DJ Aratek.
Echo Session par DJ Aratek.
Le voyage radiophonique. Des documentaires sonores, francophones, indépendants. Chaque mercredi à 18h et le samedi à 14h sur Radio HDR. Bon voyage.
HDR, le